Bienvenidos a este informativo de Radio
France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec pour la rédaction brésilienne Patricia Moribé.
Bonne nuit.
Car l'ancien juge anticorruption devenu ministre de Jair Bolsonaro est affaibli par la révélation de sa partialité dans la condamnation de l'ancien président Lula. Tran A Tran de la rédaction vietnamienne. À propos de la possible création d'une monnaie virtuelle. Et puis Jean Van Dermeij de la rédaction en anglais.
Good evening.
À propos du prélèvement d'organes sur des prisonniers en Chine. Bonsoir à vous. Avant cela, intéressons-nous à ce qui se passe à Hong Kong, à savoir à un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale, un projet qui a soulevé une vague de contestation dans l'ancienne colonie britannique. Dimanche dernier, cela a donné lieu à la plus grosse manifestation qu'ait connue le territoire depuis sa rétrocession à la Chine en juillet 1997. Et ce vendredi, certains responsables politiques hongkongais ont fini par exprimer leurs doutes. Alors, depuis le début de la semaine, sur le site internet de RFI en langue vietnamienne, Tran A Tran, vos articles sur Hong Kong suscite beaucoup d'intérêt. Il y a énormément de clics et de commentaires. Comment expliquez-vous cela ?
D'abord, parlons de la mobilisation des Hongkongais. Dans la nuit du 3 au 4 juin, donc une veillée à la mémoire des victimes de Tiananmen, lors du 30e anniversaire de ce massacre, cette veillée a mobilisé beaucoup plus de monde que les autres années. Cinq jours plus tard, le dimanche 9, les Hongkongais sont à nouveau descendus dans la rue, habillés en blanche, mais cette fois, c'est pour dire non au projet de loi d'extradition vers la Chine continentale. Plus d'un million sur une population de 7,5 millions de Hongkongais ont battu les pavés pour défendre donc le principe d'un pays de système. Et le message a été très clair, ils ne veulent pas de cette loi d'extradition.
Alors il y a la crainte de voir Pékin poursuivre les Hongkongais, mais également des étrangers à l'intérieur même des frontières du territoire de Hong Kong, qui est semi-autonome, voir des gens en transit tout simplement à l'aéroport. Or les entrepreneurs, Tran A Tran, sont très attachés à la stabilité de la ville.
Oui, alors, et pour nos auditeurs et internautes, ils suivent l'évolution à Hong Kong avec beaucoup d'intérêt à plusieurs titres, parce que à chaque fois qu'il y a des sujets concernant la question de démocratie, de liberté, de crainte de voir Pékin avoir la main lourde, voir grignoter des libertés dont jouit encore une ancienne colonie britannique et dont l'influence de la Chine sur ses propres territoires, mais aussi sur les régions. Et puis en fait, RFI en langue vietnamienne, nous apportons donc une source d'information complémentaire, mais aussi un autre regard sur le même sujet. Par exemple, dans nos éditions, nous avons beaucoup parlé de cette jeunesse de Hong Kong qui n'a pas forcément connu la période où Hong Kong était encore sous le contrôle du Royaume-Uni, et pourtant, elle descend dans la rue pour défendre ce qui leur est cher, à savoir la liberté pour leur avenir. Mais cela reflète aussi une frustration de la part des Hongkongais, d'abord sur le contrôle croissant de Pékin, sur leur propre avenir, et aussi de se voir d'être dilué au sein de la Chine continentale. Voilà tous les éléments qui font que nos éditions ont beaucoup de succès auprès de nos internautes.
Patricia Moribé, qu'est-ce qu'on dit de cette crise à Hong Kong, au Brésil ?
Dans une analyse publiée par le quotidien Folha de São Paulo, le journaliste Roberto Dias dit que la crise à Hong Kong peut se voir comme un thermomètre géopolitique à propos des ambitions de la Chine continentale. Il y a 30 ans, la Chine a réprimé avec brutalité une manifestation d'étudiants à Tiananmen Square. Aujourd'hui, c'est plus difficile de passer avec un char sur les gens, dit l'analyste. Il croit que le fait brouille la ligne d'analyse selon laquelle le monde s'est trompé en croyant que le progrès économique inciterait Hong Kong à faire des demandes démocratiques. Mais souligne Roberto Dias, le président Xi Jinping montre que ce n'est pas vrai avec un gouvernement à Hong Kong pro-Pékin. Il dit qu'avec autant d'empreintes du continent, on peut mieux voir une nouvelle version de l'ADN autoritaire d'un régime qui ne fait qu'augmenter son influence au-delà de ses frontières. Il dit aussi que l'île de Hong Kong est un peu le miroir du futur mondial.
Alors avec la pression populaire, hein, donc dans la rue dimanche dernier, encore ce dimanche, il est prévu qu'il y ait de grosses manifestations. Est-ce que cette loi peut être approuvée ?
À propos de cette loi, le politologue Alexandre Ouerrard, spécialiste de l'Asie, dit dans le site journalistique RSEC que c'est très probable que le projet de loi passe, puisque le Parlement de Hong Kong est pro-Pékin. Il rappelle aussi que dans les élections complémentaires de 2016, l'opposition pro-démocratie a perdu 2 sièges. Ouerrard ajoute aussi que la révolte de parapluies en 2014 n'a pas empêché Pékin de promouvoir une réforme électorale dans la région autonome de Hong Kong, c'est-à-dire que le leader est élu à partir d'une liste de candidats approuvés par Pékin. Ainsi, la Chine contrôle les élections locales, explique le politologue.
Alors revenons à ce texte en tant que tel, hein, qui prévoit donc une extradition vers la Chine continentale. Jean Vandermeid, certains pays ont signé des traités d'extradition avec la Chine. Par exemple, le gouvernement espagnol, qui a récemment extradé d'ailleurs un groupe important de petits délinquants taïwanais vers la Chine continentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a fonctionné?
Oui, en fait, vendredi dernier, 94 Taïwanais qui se sont trouvés impliqués il y a 3 ans dans des escroqueries téléphoniques ont été envoyés en Chine par l'Espagne. C'était le résultat d'une opération policière conjointe sino-espagnole massive, la première de ce type. Et après de nombreux retards et appels juridiques, les Taïwanais ont été envoyés en Chine par l'Espagne en vertu d'un traité d'extradition datant de 2006. J'ai justement parlé au Raúl Romero Núñez, un avocat du cabinet Sánchez Cervera à Madrid, qui s'occupe de l'extradition. Voici ce qu'il a répondu quand je lui ai demandé si l'Espagne pouvait garantir les droits fondamentaux des personnes extradées à Pékin.
I think it's difficult. I think the Spanish government and the Spanish justice cannot assure these warranties.
Alors, que vous a-t-il expliqué?
Oui, il dit qu'en fait, ni le gouvernement espagnol ni la justice espagnole ne peuvent garantir que les personnes renvoyées en Chine ne seront pas torturées. Selon lui, les autorités espagnoles ne peuvent que appliquer le traité d'extradition avec la Chine. Mais dans ce cas précis, ils affirment avoir effectué des recherches approfondies et semblant croire que les droits humains de ces Taïwanais ne seront pas violés. Mais en réalité, il n'y a en fait aucune garantie. Et pour un territoire comme Hong Kong, modifier les lois de ce type donnerait davantage de pouvoir à la Chine en éliminant une nouvelle parcelle de ce qui reste de cette quasi-indépendance.
On verra bien. Dimanche dernier, donc, des manifestations. Ce dimanche, il y aura à nouveau des rassemblements dans les rues de Hong Kong. Et ce sera bien évidemment à suivre sur toutes les antennes de Radio France Internationale.
This is Radio France International.
Paris, RFI,
$100.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Une fois de plus, dans Accent du Monde, il est question du Brésil, embourbé dans une situation politique inextricable. Patricia Moribé, le pays doit maintenant faire face à une nouvelle crise politique.
Oui, dimanche soir, le site de Intercept d'investigation a publié des messages privés entre le juge Sérgio Moro et les procureurs Deltan Dallagnol. Selon le site, Sérgio Moro, devenu entre-temps le ministre de la Justice du président d'extrême droite Jair Bolsonaro, a franchi la ligne rouge en fournissant conseils et directives aux procureurs de l'enquête Lava Jato, Lavage Express, en défaveur de l'ancien président des gauches Lula, alors qu'il était tenu à la plus stricte impartialité. Lula, favori pour gagner l'élection présidentielle, a été condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour corruption, une peine réduite à 8 ans et 10 mois en appel que l'ex-président a commencé à purger en avril dernier. Auparavant considéré comme pratiquement intouchable, Sérgio Moro voit aujourd'hui fuser les appels à la démission, ainsi aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les éditoriaux de principaux journaux du pays. À ce stade, sa démission semble improbable, mais The Intercept Brésil a averti qu'il allait publier d'autres documents accablants. Écoutons ce que le ministre a dit juste après les révélations.
Eu não vi nada demais ali nas mensagens, porque eu ali uma invasão criminosa de celulares.
C'est donc Sérgio Moro qui parle.
Oui, il dit qu'il n'a rien vu de spécial dans les contenus des messages, les téléphones portables de procureur ont été raquettés. Il est là les délits, mais pour ma part, je n'ai rien fait qui puisse m'accabler, il l'a dit. Et dans une première interview publiée aujourd'hui par le journal au Stade de São Paulo, Serge Moro écarte l'idée de démissionner et allègue que les attaques de hackers ont été orchestrées par une organisation criminelle professionnelle afin de nuire à l'opération Lava Jato et plus largement aux institutions du pays. Il dément également toute possibilité d'annulation de la peine de Lula.
Autre point de vue ?
Oui. On a parlé avec le juriste Eduardo Carrion, professeur à l'Université fédérale du Rio Grande do Sul, qui n'est pas de cet avis-là. On l'écoute.
O teor das conversas, o conteúdo que veio a público.
Que dit-il ?
Il dit que le contenu publié montre l'irresponsabilité de la part de représentants de l'État. Le plus étonnant, c'est qu'à la suite des révélations, ils pensent, le procureur et le ministre, que le contenu s'en sert dans la normalité. Ils adoptent le principe que la fin justifie les moyens, dit Eduardo Carrion.
Alors, est-ce que ces révélations peuvent influencer ce qui arrive à Lula, quoi ?
La Cour suprême du Brésil a reporté le jugement d'une demande de libération de l'ex-président Lula prévue mardi, deux jours après de révélations sur la partialité de ceux qui l'ont condamné pour corruption. Les magistrats ont fixé le 25 juin le jugement d'un autre recours de la défense de l'ex-président visant à obtenir sa libération. Ces recours qui remet justement en cause l'impartialité de Sérgio Moro en raison de sa présence ultérieure au gouvernement a été déposé bien avant que le révélation d'Intercept.
Alors justement, qui est derrière ce site d'Intercept et toutes ces révélations ?
C'est le journaliste américain Glenn Greenwald, il est prix Pulitzer et cofondateur du site d'investigation de Intercept. Il s'est rendu célèbre en rendant public en 2013 les révélations de Edward Snowden sur l'agence américaine de renseignement NSA. Greenwald assure qu'il ne quittera pas le Brésil malgré les menaces de mort qui lui ont valu ces révélations. Et le journaliste américain est marié à un député brésilien et avec qui il a adopté des enfants.
Patricia Moribé de la rédaction brésilienne de RFI. Lundi à Londres seront prononcées les décisions de ce qu'on appelle le tribunal de la Chine. Il s'agit d'un tribunal indépendant qui s'intéresse aux prélèvements forcés d'organes sur des prisonniers exécutés. Jean Vandenberg du service anglais, vous avez assisté au procès. Tout d'abord, à propos de ce tribunal, quel est exactement son statut juridique ?
Oui, en fait, ce tribunal est organisé par un groupe de personnes préoccupées par les violations des droits de l'homme en Chine et groupé dans une coalition internationale pour mettre fin aux abus des prélèvements d'organes. Ce tribunal est inspiré du célèbre tribunal de Russell qui s'est tenu dans les années 60 et qui porte le nom du philosophe Bertrand Russell, l'un des organisateurs. Jean-Paul Sartre également participe à ce tribunal-là. Il examinait alors des allégations de crimes de guerre commis par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam.
Alors, pour être précis, qui accuse la Chine de prélever des organes sur des prisonniers morts ?
Et en fait, le groupe principal, c'est le groupe de méditation Falun Gong qui affirme que la Chine a tué jusqu'à 1,5 million de personnes afin de prélever leurs organes. Un autre groupe est constitué des Ouïghours, une minorité musulmane de l'ouest de la Chine, dans la région de Xinjiang, qui dénonce également le prélèvement d'organes.
Est-ce que le gouvernement chinois envoie des représentants ?
Moi, j'ai demandé aux organisateurs du tribunal et ils m'ont dit que l'ambassade de Chine avait été invitée, mais n'a jamais envoyé des représentants pendant les mois de ce process.
Alors, question, y a-t-il un fond de vérité dans toutes ces allégations ?
En fait, les autorités chinoises ont elles-mêmes admis dans le passé que des organes de prisonniers condamnés à la peine capitale avaient été prélevés. Mais en 2014, la Chine a promulgué une loi stipulant que les organes peuvent être prélevés sans l'accord des prisonniers. Aujourd'hui, de nombreux militants des droits de l'homme s'accordent à dire que des abus de prélèvement d'organes se produisent, mais pas dans la proportion dénoncée par le Falun Gong. Voici ce qu'en dit Marie Holzmann, présidente de Solidarité Chine.
We have proofs of
Chinese people from Malaysia, Thailand, etc.
Alors, il dit qu'il y a des preuves.
Oui, elle dit en fait qu'il existe des preuves selon lesquelles des Chinois de Malaisie et de Taïwan ont déclaré qu'ils savent que leurs organes provenaient de prisonniers chinois condamnés à mort. Mais elle dit n'avoir jamais entendu quelqu'un dire avoir reçu un organe du membre du groupe du Falun Gong. Elle ne peut pas non plus confirmer que des membres du Falun Gong ont été condamnés à mort par centaines ou par milliers.
Tout le monde sera donc attentif à ce qui sera annoncé lundi prochain.
Voilà.
C'était Jean de Van Hermet de la rédaction en anglais. Vous écoutez Accent du Monde. Au Vietnam, la Banque centrale confirme que le gouvernement n'a accordé aucune autorisation aux plateformes de monnaie virtuelle. Ce démenti vient après de nombreuses rumeurs concernant des projets de coopération, d'une part entre un groupe vietnamien et le Swiss Crown Venture AG, d'autre part avec un partenaire chinois. Alors, Tranatran, le Vietnam est-il en train de devenir une plaque tournante pour les crypto-monnaies?
Alors, d'après deux sites de crypto-monnaies, fin avril, début mai, ils ont publié des informations comme quoi il y a deux projets de venture, l'un avec une société suisse et l'autre avec un partenaire chinois. Et puis, selon une troisième étude d'un autre site qui est Datalight, le Vietnam est devenu un des 10 premières plateformes de monnaie virtuelle du monde, classé 8e derrière les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, etc. Et selon les statistiques officielles, donc les masses de monnaie investies au Vietnam dans la monnaie virtuelle ne cessent de progresser.
Alors, ceux qui placent de l'argent dans ces crypto-monnaies, est-ce qu'ils sont informés, est-ce qu'ils ont connaissance de tous les risques qui sont liés à ces monnaies virtuelles?
Pour répondre à cette question, voici ce que nous dit notre économiste Huynh Biu-sun à Ho Chi Minh Ville à notre micro. Alors, il nous explique qu'on constate qu'il y a un engouement pour les monnaies virtuelles. Les participants sont de plus en plus nombreux. Le rang des perdants également. Depuis 2017, il y a des rumeurs concernant une place financière pour la crypto-monnaie au Vietnam. Les inquiétudes également circulent dans les rangs. La crainte est que de telles plateformes peuvent être aussi un endroit idéal pour laver de l'argent sale. En résumé, à l'heure actuelle, le gouvernement vietnamien n'a pas encore autorisé les échanges de monnaie virtuelle. Ces activités donc sont encore considérées comme illégales. Il faut se rappeler que la monnaie virtuelle est un jeu à somme nulle. Il y a des perdants, et donc les gagnants et les perdants. Et selon notre invité, Huynh Biu-sun, le risque de perdre sa mise est encore beaucoup plus élevé que dans les casinos.
Alors, toute opération d'achat ou de vente de monnaie virtuelle se passe en ligne, hein, par définition. Pour un gouvernement, comment est-ce qu'on peut réguler de pareilles activités?
Voici ce que nous dit notre invité.
Alors, il pense que
l'État doit intervenir pour réguler, pour interdire toute formation de plateforme. Avant le Vietnam, la Chine est déjà confrontée à ce sujet et a pris des mesures pour interdire de telles activités. Et ces mesures devraient entrer en vigueur depuis 2017. Il n'en était rien.
Voilà, donc le Vietnam qui est dans le top 10 des pays où l'on place, spécule de l'argent sur donc ces monnaies virtuelles. Merci à vous tous pour cet éclairage sur ce qui fait l'actualité dans le monde. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.
RFIMusique.com. C'est un véritable artisan de la chanson française. Il a un univers musical bien à lui, entre inventivité et référence au plus grand. Alexis HK.
Chaque instant, comme dernier présent, quand je sens la peur de l'heure de partir. Que pourrais-je bien te raconter pour rassurer tes yeux ombrageux? Ça me fait du bien de te parler tant que nous sommes.
Alexis HK et plus de 350 artistes
à voir, à lire, à écouter
sur rfimusique.com.